18 et 19 septembre dernier, une formation sur la désinformation a été organisée par l'Agence française de développement média, CFI. Destinée aux journalistes et à l'organisation de la société civile, cette formation a inclus un panel sur le thème « Contre la désinformation, l'éducation aux médias et l'information ». Nous avons eu l'occasion de recevoir l'un des panélistes qui s'est exprimé sur la question au micro de Christelle Yesso.
Bonjour Aristide Kanga.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, nous parlons de ce qu'est l'éducation aux médias et à l'information, en abrégé EMI, et des actions que vous menez sur le terrain à travers votre organisation dénommée les bénévoles de l'EMI. Alors dites-nous, comment peut-on définir l'éducation aux médias et à l'information ?
Tout simplement, il faut dire que l'EMI, c'est un ensemble de techniques, c'est un moyen qui permet à tout individu de pouvoir développer ce qu'on appelle l'esprit critique et d'avoir, on va dire, les aptitudes nécessaires à pouvoir être un citoyen responsable de ce qu'il consomme et de ce qu'il met sur les réseaux sociaux.
Et donc, quelles sont les actions que votre ONG, on peut dire ça comme ça, met en place pour pouvoir sensibiliser la population ?
Il faut dire déjà que les bénévoles de l'EMI existent depuis 2019. Et la création de cette organisation a été le fait du bureau de l'UNESCO à Abidjan, en collaboration avec deux jeunes qui ont participé à une première activité de l'UNESCO, qui ont décidé de pouvoir mettre en place une association afin de pouvoir perpétuer ces formations qui ont été faites. Et donc, depuis 2019, nous avons participé à plusieurs projets, notamment le projet EMITOU, qui consistait à sensibiliser plus de 2000 jeunes dans cette université publique de Côte d'Ivoire, qui s'est fait en 2021. Également, on a eu à faire un projet. Le projet consistait à faire une certaine forme de vérification de l'information sociale, qui a été réalisée, je crois, en 2021 également. Par la suite, on a eu également à participer à un projet de jumelage des initiatives de lutte contre la désinformation financées par l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a permis de pouvoir travailler en collaboration avec Éduc Média du Cameroun et également une organisation du Burkina qui travaille également dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. On a eu également actuellement à bénéficier d'un financement de CFI sur le projet des Infox Jeunesse. Et actuellement, l'accent est beaucoup mis dans un premier temps sur les formateurs que nous sommes à la production de ressources pédagogiques pour que par la suite, en allant former d'autres personnes, on puisse avoir les rudiments nécessaires et les ressources appropriées pour pouvoir les former. En dehors de ça, on a eu à faire beaucoup d'activités parce que ça, ce sont vraiment les projets qu'on a eu à mener. Mais on a eu également à mener des activités, notamment la Semaine mondiale de l'éducation média et l'information qui est célébrée dans la dernière semaine du mois d'octobre, que nous célébrons chaque année. On fait des campagnes en ligne, des campagnes digitales de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation en langue locale qu'on fait et qu'on partage. On a eu même, on va dire, une rubrique qu'on appelle le rendez-vous de l'internaute. Généralement, on l'a fait avec le lieutenant Zokoubi qui vient, on l'invite au niveau du bureau UNESCO et on échange avec lui sur des questions qui concernent la désinformation, la lutte contre la désinformation, l'éducation aux médias et l'information et d'autres thématiques qui sont assez importantes. Donc, pour dire que vraiment, depuis 2019, on a quand même amené beaucoup d'activités et de projets dans ce sens-là.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement sur le terrain ?
Difficultés, Abidjan, comme les personnes de façon générale, savent déjà ce que c'est, surtout les questions de désinformation, parce qu'eux-mêmes, parfois, ils contribuent à la propagation de cela. C'est un peu plus facile. Mais l'une des difficultés, c'est le fait de pouvoir aller vers les populations qui sont à l'intérieur du pays pour aller les former. Ça demande nécessairement beaucoup de moyens financiers, ce que forcément on n'a pas. C'est vrai qu'en 2021, on a eu la chance avec le projet EMITOU de pouvoir avoir un financement, mais les financements ne sont pas toujours là, ce qui fait que ça fait partie de nos difficultés. En dehors de ça, il faut également parler du fait qu'il y a un manque de collaboration réel entre le gouvernement, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Transition numérique maintenant, le ministère de la Communication. C'est vrai, on avait déjà travaillé, mais actuellement, c'est de plus en plus compliqué. Et ces acteurs que nous sommes dans le domaine de la lutte contre la désinformation, et ça fait partie également de nos difficultés. Actuellement, on est dans une dynamique avec certains de nos partenaires de pouvoir faire intégrer l'éducation aux médias et l'information dans les cursus de formation. Mais ça reste encore un défi. C'est vrai qu'on ne baisse pas les bras, on continue de pouvoir travailler. Et l'une des solutions qu'on a trouvées, c'était de pouvoir nous-mêmes produire ces ressources-là qu'on allait utiliser pour le plaidoyer. Donc, en dehors de cela, pour peut-être un dernier point, on va parler aussi de la collaboration qui est très difficile. Parfois, entre nous, acteurs de la société civile, certains journalistes, ils pensent que nous, on est là pour peut-être jouer plutôt leur rôle, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, ça fait que parfois, il y a une certaine méfiance qui se crée, mais on essaie toujours de pouvoir quand même montrer le bon côté de ce qu'on fait, de pouvoir toujours créer, en tout cas, ce réseau-là d'acteurs dans le domaine de l'éducation média et à l'information.
Alors, Est-ce que les populations que vous rencontrez dans les zones rurales comprennent véritablement ce que c'est que l'EMI?
Oui, bien sûr, parce que vous n'allez pas parler à une population qui d'un endroit reculé de la même manière que vous allez parler à un individu qui est beaucoup plus en contact avec. On adapte notre langage en fonction des personnes face à qui nous sommes confrontés. Et c'est ce qui nous permet, en tout cas, de mieux nous faire comprendre. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là de pédagogie où les gens vont passer leur temps à écrire parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de votre passage? C'est plus dans cette approche-là que nous sommes.
Est-ce que vous avez eu des résultats palpables déjà de tout ce que vous avez fait?
Oui, bien évidemment, parce que quand vous prenez le projet EMITO qui a été réalisé en 2021, dès qu'on a terminé, il y a eu 7 clubs de ces universités qui ont été créés. Donc moi-même, à la base, j'ai été présidente de club. Quand on finit de créer ces clubs-là, eux, à leur tour, ont pour rôle de pouvoir sensibiliser également leurs pairs. Et c'est très visible aujourd'hui quand vous voyez, pour ceux qui, moi, m'ont formé, par exemple, quand ils me voient, moi, en train de parler des questions d'éducation aux médias, c'est une fierté, ça prouve qu'effectivement, ce qui a été donné comme formation a eu de l'impact. Et c'est comme ça pour beaucoup de jeunes qui ont commencé avec nous et qui aujourd'hui poursuivent. Aujourd'hui, on a des formateurs, des ingénieurs pédagogues qui sont en train d'être formés, dont moi-même j'en fais partie. Et donc, on essaie de pouvoir progresser dans ce même sens-là. Et pour finir, même, je crois qu'au travers de notre page même qu'on a eu à créer, qui fait que même ces personnes qu'on a eu à former, lorsqu'ils parfois ils doutent d'une information, ils essaient de nous taguer généralement sur une information afin de nous dire, ah, les bénévoles de l'EMI, est-ce que vous pouvez nous aider à vérifier l'information? Donc, ça démontre aussi, d'une manière ou d'une autre, de l'impact de ce qu'on arrive à faire.
Quelles sont les petites astuces que vous pouvez nous donner là rapidement pour vérifier une information?
De façon basique, si vous êtes une personne, de toutes les façons, ça a toujours été difficile de vous demander de prendre une application et tout ça. Vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un individu qui avait vu une information, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et on sait que partout, ceux qui sont habilités à donner l'information, ce sont des journalistes. Donc, généralement, aujourd'hui, ils ont des plateformes en ligne et tout ça. Je vois une information sur les réseaux sociaux. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir est-ce que cette information-là, beaucoup de personnes en parlent. Et lorsque beaucoup de personnes en parlent, déjà, est-ce que tout ce que les personnes disent converge dans le même sens? Et maintenant, me tourner vers, par exemple, des médias en ligne qui abordent la question afin de savoir si effectivement, parce qu'une information, si elle est vraie, elle sera parlée, on en parlera partout. C'est impossible qu'une seule personne ait le monopole d'une information qui est vraie et qui touche en tout cas tout le monde. Donc c'est vraiment, on va dire, ces petits aspects. Je vois une information, pour une personne en tout cas qui est partie à l'école, je vois une information, je doute, je peux demander à des personnes qui étaient là, qui ont vu, ou par exemple me retourner vers par exemple des médias qui ont eu déjà à parler de l'information. Maintenant, quand je ne trouve aucune information, je m'abstiens de partager. Maintenant, on va dire que par exemple, une personne qui ne sait ni lire et écrire, mais qui entend une information, elle peut appeler par exemple des personnes qui se trouvent dans la zone. Et si ces personnes n'arrivent pas à leur donner des informations assez conséquentes, c'est mieux de s'abstenir de partager. Parce qu'avec la loi et puis, on va dire, tout ce qui se met en place, partager une fausse information peut nous-mêmes nous mettre en danger et mettre aussi les autres en danger.
Et par rapport aux élections 2025 à venir, on sait que ce genre de période suscite aussi de fausses informations. Qu'est-ce que vous prévoyez à votre niveau?
Bien évidemment, actuellement, on se prépare tous, surtout avec la campagne digitale, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de pouvoir aller dans tous les coins et les recoins. Donc déjà, on pense à mettre en place, on travaille déjà avec l'équipe des bénévoles de l'EMI à travailler sur la campagne digitale qui va être faite. Et actuellement même, on fait des activités comme ce qui a été fait il y a, je crois, 2 semaines, on était à Bangourou. On fait des campagnes de sensibilisation, on a des ateliers de réflexion, de consultation avec certains jeunes. On en parle et on essaie de leur dire, attention, voilà les élections qui arrivent. Pour ne pas que ce qui a été fait les années précédentes se répète, c'est mieux que nous tous, on essaie de pouvoir vraiment être aux aguets pour ne pas tomber dans les pièges de la désinformation. Malheureusement, on sait ce que ça peut créer.
Et vous avez parlé d'une collaboration avec peut-être le ministère de l'Éducation. Où est-ce que vous en êtes?
Très sincèrement, on n'est pas très avancé. Parce que je me rappelle que quand on débutait le projet des Infox Jeunesse qui nous permet de pouvoir produire des ressources, on a quand même mené des démarches vers le ministère de l'Éducation nationale. Malheureusement, on n'a pas eu de retour. Mais on ne baisse pas les bras parce qu'on ne pourra rien faire sans associer, sans que ces différents ministères-là qui sont concernés par la thématique ne s'engagent. Parce qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose, mais nous, c'est à petite échelle. Mais si eux, par exemple, qui sont en charge du curriculum et tout ça de formation, ils s'investissent ensemble, bien évidemment que les choses vont avancer et ça sera en tout cas pour le bonheur des Ivoiriens.
Et pour vous, c'est important que les enfants soient déjà formés à cela?
Oui, ça c'est clair. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas su ce que c'est qu'un média, ce que c'est que l'information, comment ça fonctionne et tout ça. Qu'aujourd'hui, nous, parfois, on a été manipulés par beaucoup de choses. Mais quand on commence par l'éducation dès le bas âge, où on apprend à l'enfant à savoir ça, c'est une information. Voilà comment ça se passe. On essaie de lui montrer, par exemple, que ça, c'est une désinformation. Voilà comment est-ce qu'on peut te manipuler. Voilà comment est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Quels sont les bons côtés de l'intelligence artificielle? Quel est le revers de la médaille, par exemple? On essaie de leur montrer ces petites astuces pendant qu'ils sont en train de grandir. Et là, ça permet de faire des citoyens responsables. Et quand c'est comme ça, l'enfant, du moment où il a cette éducation-là dès le bas âge, quand il commence à grandir, il sait que, attention, je ne dois pas partager une information dont je n'ai aucune source fiable. Et donc, quand c'est comme ça, ce sont des petits réflexes qui se créent. Actuellement, très sincèrement, moi-même, quand je dois pouvoir dire quelque chose, à moins d'être là, j'ai du mal même à me lever et à faire un poste pour dire que voilà ce qui s'est passé, si je ne prends pas le temps de pouvoir vérifier. Ça crée des réflexes et les réflexes nous permettent de pouvoir nous mettre à l'abri de beaucoup de dangers.
En tout cas, merci beaucoup, Mademoiselle Kanga.
Merci à vous, en tout cas.
C'était l'entrevue Radio de la Paix.